Vous écoutez, on lit pour vous.
Recherche. La prévention des plaies de pression en soins aigus. Entrevue avec la docteure Andréanne Richard-Denis. Un texte de Virginie Archambault, agente de recherche et de liaison, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad. Andréanne Richard-Denis est clinicienne chercheuse en physiatrie, médecine physique et réadaptation, spécialisée en réadaptation des personnes ayant subi une lésion de la moelle épinière. Elle est professeure titulaire de clinique au département de médecine de l'Université de Montréal et pratique à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, HSCM, au sein du CIUSSS du nord de l'île de Montréal, auprès de patients présentant des lésions médulaires aiguës traumatiques, non traumatiques et ou avec des neurotraumas périphériques. Elle est également chercheuse régulière au Centre de recherche du CU3S du nord de l'île de Montréal et chercheuse associée au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain, CRIR. Virginie Archambault. Quelles sont les avancées quant à la prévention des plaies de pression en soins aigus? Andréanne Richard-Denis. En soins aigus, la prévention des plaies de pression demeure une priorité. La littérature scientifique est claire. Il vaut mieux prévenir que traiter. Les efforts de recherche s'orientent donc de plus en plus vers des stratégies préventives et personnalisées. Dans notre laboratoire à l'hôpital du Sacré-Cœur, nous observons que ces plaies peuvent être souvent évitées si des mesures adaptées sont instaurées rapidement. Les technologies émergentes jouent un rôle clé pour renforcer cette prévention. Notre objectif est de passer d'une approche essentiellement réactive à une approche fondée sur la prévention et l'individualisation, car les mécanismes menant à une plaie ne sont pas uniformes d'un patient à l'autre. Les méthodes traditionnelles, telles que la mobilisation toutes les 2 heures et les matelas spécialisés, sont souvent efficaces. Mais elles sont exigeantes en ressources et ne tiennent pas toujours compte des variations individuelles. Chaque patient présente un risque distinct. Nous travaillons donc à mieux quantifier ce risque à l'aide du développement et de l'utilisation d'outils cliniques adaptés. Le travail interdisciplinaire est essentiel. Infirmiers, infirmières, nutritionniste, physiothérapeute, ergothérapeute, médecin et même le patient lui-même et ses proches ont un rôle crucial à jouer. Des éléments tels que l'éducation, la nutrition, la mobilisation et la réadaptation précoce contribuent significativement à réduire les risques. Nos travaux actuellement menés par les docteurs Jean-Marc Mac-Tiang à l'aide de M. Islam Krasi, étudiant PhD, nous ont permis de développer des technologies au chevet du patient pour mesurer les mouvements et analyser les schémas de mobilité au lit associés à la prévention. Ces outils permettent d'identifier les patients capables de se mobiliser de façon autonome et ceux qui nécessitent davantage de soutien. De façon surprenante, nous avons observé des mouvements subtils, mais protecteurs, souvent insoupçonnés, qui contribuent à réduire le risque la nuit, un moment particulièrement critique en raison de l'immobilité prolongée. Nous explorons également certains paramètres physiologiques, notamment au niveau des tissus à risque, afin de mieux évaluer les situations de vulnérabilité. Enfin, nous venons de terminer un essai clinique évaluant l'utilisation de pansements préventifs au sacrum et des bottes de décharge pour les talons, deux zones particulièrement à risque en soins aigus. Les résultats suggèrent que certains sous-groupes de patients pourraient en bénéficier davantage, ce qui ouvre la voie à des stratégies plus personnalisées. La mobilisation précoce et la thérapie basée sur l'activité, incluant le vélo passif ou actif, sont également prometteuses. Contrairement à ce que nous anticipions, ces thérapies semblent réduire le risque de plaies, même chez des patients paralysés. En somme, la prévention des plaies de pression est un défi complexe, surtout en présence d'une lésion médullaire. Néanmoins, les fondements demeurent. Mobiliser tôt, travailler en interdisciplinarité et impliquer activement le patient. Les technologies émergentes et l'approche personnalisée viendront renforcer cette base dans les prochaines années. VA. Quels sont le type de plaies et le stade que vous observez le plus fréquemment en soins aigus? ARD. En soins aigus, en centre spécialisé, nous observons plus rarement des plaies avancées. La majorité sont des plaies de stade 1 ou 2, donc plus superficielles, mais tout aussi importantes à prévenir. Il faut toutefois demeurer vigilant. Une plaie apparemment mineure peut cacher des atteintes plus profondes, la pointe de l'iceberg. Nos travaux se concentrent principalement sur la prévention, notamment parce que les bénéfices pour le patient et pour le système de santé sont importants. VA. Est-ce que prendre soin de la peau dès les premiers instants après une lésion médullaire peut réduire le risque de futures plaies? ARD. Absolument. Une première plaie augmenterait significativement le risque d'en développer d'autres par la suite. La peau est fragilisée et perd notamment en élasticité, surtout si la plaie initiale était sévère. Cela souligne l'importance de la prévention dès le départ. Les répercussions économiques de la survenue d'une plaie sont majeures. Prolongation des hospitalisations, traitements coûteux et augmentation des complications. Dans les cas graves, les plaies peuvent mener à des infections sévères et même au décès. Cela illustre à quel point la prévention, dès les premiers instants, est essentielle. VA. Pouvez-vous nous en dire davantage sur le projet intitulé « Dormir sans pression », un concept intégrateur pour les patients tétraplégiques et les aidants pour minimiser les plaies de pression, améliorer le sommeil et favoriser la résilience face à la lésion de la moelle épinière? ARD. Ce projet, mené conjointement par le Dr Mac Tiong, notre équipe et plusieurs collaborateurs, a constitué un point de départ majeur pour mieux comprendre les facteurs individuels menant aux plaies et pour développer des solutions personnalisées. Toujours dans le cadre de ce projet, M. Pascal Mputu étudiant postdoctoral, a permis de mieux comprendre les habitudes de repositionnement nocturne en communauté suivant une lésion modulaire. Travaux soumis pour publication. Nous avons rapidement confirmé que la recommandation classique de repositionner le patient toutes les 2 heures est souvent irréaliste, particulièrement à long terme. Malgré cette pratique, des plaies continuent d'apparaître en soins aigus. La charge sur les équipes soignantes et les proches aidants est souvent énorme. En communauté, maintenir une telle fréquence est pratiquement impossible. D'où l'importance de quantifier les facteurs individuels et d'élaborer des technologies adaptées. Ce projet a mené au développement d'outils concrets comme l'actigraphie, méthode utilisant un appareil pour mesurer l'activité physique et les périodes de sommeil et d'éveil, et les capteurs d'oxygénation tissulaire, mesurant la quantité d'oxygène directement dans les tissus de la peau. Ils montrent tous deux des résultats très prometteurs à l'hôpital du Sacré-Cœur. Un volet particulièrement innovant concerne la période nocturne, encore peu étudiée. On connaît bien l'efficacité des surfaces thérapeutiques, mais l'immobilité prolongée de nuit demeure un enjeu, tant à l'hôpital qu'à domicile. Nos travaux, dans le cadre de ce projet, visent également à mieux comprendre cette période critique et à développer des interventions adaptées. VA. Lors des suivis post-réadaptation, faites-vous un suivi des plaies de pression? Comment cela sert-il à la recherche? ARD. Actuellement, nous assurons un suivi clinique à l'hôpital du Sacré-Cœur, conjointement avec l'équipe de chirurgie spinale et de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, incluant la détection et la surveillance continue des plaies de pression. Dans le cadre de projets de recherche, notre équipe, composée notamment d'une infirmière et ou d'un assistant de recherche médicale, recueille des données cliniques et physiologiques supplémentaires, permettant une caractérisation plus fine des facteurs de risque et des trajectoires évolutives des plaies. Notre objectif est d'appuyer les pratiques cliniques existantes par des outils permettant une meilleure identification des facteurs de risque et une prise en charge plus adaptée. Ces initiatives contribuent à renforcer les stratégies actuelles de prévention des plaies de pression. VA. Avez-vous des projets liés aux plaies de pression? ARD. Oui, certaines pistes sont actuellement explorées. À ce stade, l'enjeu est surtout de consolider les observations déjà réalisées et de mieux les intégrer à la pratique clinique afin d'optimiser les stratégies de prévention de façon pragmatique et réaliste. D'autres travaux s'intéressent également à certains paramètres physiologiques et à l'utilisation ciblée de mesures préventives dans une optique d'amélioration continue des pratiques. C'était la prévention des plaies de pression en soins aigus. Une entrevue avec la docteure Andréanne Richard-Denis. Un texte de Virginie Archambault, agente de recherche et de liaison, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad.
L'entropie qu'on refuse de voir. Un texte de Régnier Ricardo, paru le 24 avril 2026 dans la presse. Nous avons besoin d'une nouvelle manière de penser la dépense publique, plaide l'auteur, Rainier Ricardo, qui est chercheur et consultant. Une manière qui reconnaît que le temps use les infrastructures et qui prévoit les ressources nécessaires à leur entretien pour éviter un déficit de maintien. Au Québec, le débat sur les péages refait surface. Face à l'état préoccupant de nos routes, certains proposent de faire payer davantage les usagers. L'argument est connu. Ceux qui utilisent les infrastructures devraient contribuer directement à leur entretien. À première vue, l'idée semble raisonnable. Mais elle repose sur un malentendu fondamental. Elle suppose que notre problème est un manque de revenus. Or, tout indique que le mal est dans notre incapacité collective à intégrer une réalité pourtant élémentaire. Toute infrastructure se dégrade. Nos routes se fissurent. Nos écoles vieillissent. Nos hôpitaux s'usent. Ce phénomène n'est ni accidentel ni exceptionnel. Il est inévitable. En physique, on appelle cela l'entropie, c'est-à-dire la tendance naturelle de tout système organisé à se détériorer avec le temps. Et pourtant, nos infrastructures publiques sont construites comme si cette loi n'existait pas. Depuis des décennies, nous finançons la construction de nouvelles infrastructures sans prévoir rigoureusement les ressources nécessaires à leur entretien. Résultat, un déficit de maintien qui ne cesse de croître. Au Québec, il dépasse aujourd'hui les 40 milliards de dollars, et ce, malgré des investissements records dans le Plan québécois des infrastructures. Le gouvernement reconnaît déjà le problème en consacrant une part croissante de ses investissements au maintien des actifs. Mais cette approche demeure essentiellement corrective. Elle ne transforme pas encore l'usure en contrainte structurelle de la décision politique. Nous investissons davantage, mais nous accumulons tout de même du retard. Dans ce contexte, les péages apparaissent comme une réponse pragmatique. Mais ils répondent à la mauvaise question. Ils nous disent qui paie sans jamais expliquer pourquoi nous payons encore et encore pour le même problème. Les péages financent l'usure. Ils ne l'anticipent pas. Injecter de nouveaux revenus dans un système qui ne planifie pas la dégradation revient à remplir un seau percé. Tant que la logique de gestion demeure inchangée, l'argent supplémentaire sera absorbé par les mêmes mécanismes qui ont produit le déficit actuel. Il existe pourtant une autre voie. Elle repose sur une idée simple. Toute infrastructure doit être financée deux fois. Une fois pour sa construction, une fois pour sa dégradation. Concrètement, cela signifie qu'aucun projet d'infrastructure ne devrait être autorisé sans être accompagné d'un fonds de maintien obligatoire, proportionnel à sa valeur et à son rythme d'usure. Une route nouvellement construite devrait voir son entretien futur budgété dès aujourd'hui et non laissé à la discrétion des gouvernements à venir. Ce type de mécanisme existe déjà, sous différentes formes, dans le secteur privé et dans certaines administrations publiques. Il repose sur un principe élémentaire. On ne gère pas un actif sans planifier sa dépréciation. Pourquoi l'État ferait-il autrement? Le problème n'est donc pas uniquement financier. Il est culturel et politique. Le débat sur les péages est en ce sens révélateur. Il illustre notre tendance à chercher des solutions rapides à des problèmes que nous refusons encore de comprendre dans leur profondeur. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas seulement de nouvelles sources de revenus, mais une nouvelle manière de penser à la dépense publique. Une manière qui reconnaît que le temps use, que l'usage transforme et que l'entretien n'est pas un coût, mais une condition du progrès. Le jour où chaque infrastructure sera accompagnée par la loi d'un mécanisme de maintien financé et transparent, nous cesserons peut-être enfin de courir après les réparations. Et nous commencerons, enfin, à voir le progrès dans la qualité durable de ce qui nous entoure. C'était « L'entropie qu'on refuse de voir », un texte de Rainier Ricardo, paru le 24 avril 2026 dans La Presse.
Des tours comptant jusqu'à 34 étages dans le futur quartier Molson. Un texte de Marco Fortier paru le 13 mars 2026 dans Le Devoir. Quoi retenir? L'arrondissement de Ville-Marie autorise des dérogations pour permettre à 11 tours de dépasser les hauteurs habituelles, notamment la tour Molson à 120 mètres. Le projet ajoutera 1000 logements, portant le total à 4200 unités et incluant commerces, bureaux et écoles primaires. L'incertitude sur la part de logements sociaux perdure, malgré l'engagement de 20 % de logements sociaux et abordables par les promoteurs. Le quartier en cours d'aménagement autour de l'ancienne brasserie Molson, à deux pas du pont Jacques-Cartier, est appelé à gagner en hauteur. L'arrondissement de Ville-Marie ouvre la voie à des dérogations aux règles d'urbanisme pour que 11 édifices du secteur dépassent les hauteurs autorisées, y compris l'emblématique tour Molson, qui culminera à 120 mètres, soit environ 34 étages, selon les promoteurs du projet. La hauteur maximale des autres tours du secteur serait de 27 étages, toujours selon les promoteurs. Cette hausse importante de la densité du futur quartier permettrait la construction de 1000 logements de plus que prévu, selon la Ville de Montréal. Le projet passerait de 3200 à 4200 logements. Cet ambitieux chantier est destiné à transformer l'ancien quartier de la brasserie Molson, qui borde le fleuve sur environ 500 mètres, entre le pont Jacques-Cartier et le Vieux-Montréal. Des logements, des commerces, des bureaux, un hôtel et des parcs publics viendront remplacer les bâtiments industriels. Un espace est aussi prévu pour une école primaire. Cette mise à jour du futur quartier s'inscrit dans les nouveaux paramètres du plan d'urbanisme et de mobilité qui permet des hauteurs et des densités plus importantes dans le secteur Molson, secteur d'intensification élevée. La proposition vise à rehausser la plupart des tours, indique le sommaire décisionnel de l'arrondissement de Ville-Marie, adopté le mardi 10 mars 2026. La mairesse Soraya Martinez Ferrada mise en partie sur des tours en hauteur pour soulager la crise de l'habitation. Il s'agit d'une des façons les plus évidentes d'augmenter le nombre de logements, compte tenu du peu de terrain disponible à Montréal. Flou autour des logements sociaux. La part de logements sociaux reste incertaine dans le futur quartier Molson. Les promoteurs du projet, le groupe Montoni et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, se sont engagés en décembre 2024 à inclure 20 % de logements sociaux, 20 % de logements abordables et 20 % de logements destinés aux familles, comme le prévoyait le règlement pour une métropole mixte, aussi appelé 20-20-20, créé par l'ancienne mairesse Valérie Plante. L'administration Martinez-Ferrada a toutefois entrepris de modifier ce règlement pour le remplacer par une cible de 20 % de logements hors marché, qui comprend des coopératives, des logements subventionnés et une série d'autres habitations décrites comme abordables. Mais qui n'ont d'abordable que le nom, selon les comités logements. Nous sommes en conversation avec le partenaire Montoni et le fonds FTQ pour qu'il respecte les engagements qu'il a pris avec nous, qu'il a pris avec la ville, a dit Soraya Martinez Ferrada lors du conseil d'arrondissement de Ville-Marie. La mairesse de Montréal est aussi mairesse de cet arrondissement qui englobe le centre-ville. Question sans réponse. quelle part de logements sociaux les promoteurs prévoient-ils de construire dans le quartier Molson? Le Fonds immobilier de solidarité FTQ cherche à appuyer la construction rapide du plus grand nombre de logements abordables possible. Dans le cadre du quartier Molson et aux côtés de Montoni, nous poursuivons les échanges avec l'arrondissement sur l'inclusion de logements abordables dans le projet, indique Patrick McQuilkin, porte-parole du Fonds de solidarité FTQ. Tant que ces discussions se poursuivent, on ne peut pas se prononcer davantage sur cette question, précise-t-il. Le groupe Montoni refuse aussi de confirmer son engagement de respecter le règlement 2020. Notre volonté a toujours été d'offrir une diversité de logements répondant aux besoins de tout type de ménage au sein du quartier Molson. Cette volonté existait avant l'entrée en vigueur du règlement pour une métropole mixte, RMM, et demeure pleinement au cœur du projet. Nous travaillons de pair avec la Ville de Montréal à cet effet, a fait savoir Frédéric Truchon-Gagnon, directrice Affaires publiques et communication chez Montoni. Un contrat brisé. Éric Michaud, coordonnateur du comité logement Ville-Marie, s'indigne du recul apparent de la ville et des promoteurs du quartier Molson. La promesse de plus de 800 logements sociaux s'évapore pour les locataires du Centre-Sud, a-t-il lancé lors du conseil d'arrondissement. L'assouplissement du RMM par la nouvelle administration élimine l'obligation d'inclure des logements sociaux, généralement subventionnés par l'État et répondant aux besoins des ménages à faible revenu, selon lui. Éric Michaud a reproché à la mairesse d'avoir brisé le contrat social, liant la ville et les promoteurs. Soraya Martinez-Ferrada s'en est défendue. Le contrat social et l'engagement qu'on a pris, c'est d'arriver à avoir 20% de logements sociaux et abordables à Montréal. Des logements hors marché, hors de la spéculation, a dit la mairesse. Le RMM de Projet Montréal n'a pas fonctionné, a-t-elle répété. La majorité des promoteurs ont préféré contribuer à un fonds plutôt que d'inclure des logements sociaux, abordables ou familiaux, dans leur développement immobilier. La nouvelle administration compte plutôt proposer des incitatifs financiers aux promoteurs et aux OBNL, dans l'espoir de stimuler l'offre de tous les types de logements hors marché. C'était « Des tours comptant jusqu'à 34 étages dans le futur quartier Molson », un texte de Marco Fortier paru le 13 mars 2026 dans Le Devoir.